Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Face à une population mondiale qui ne cesse de croître, un défi majeur s'impose, nourrir l'humanité sans compromettre les ressources de la planète. Entre agriculture intensive, dégradation des sols, pollution et dérèglement climatique, le modèle actuel montre ses limites. Mais l'espoir existe, car des innovations émergent avec des pratiques durables s'inventent, de nouveaux comportements voient le jour. Alors comment produire davantage sans nuire à la terre? Comment repenser notre agriculture pour qu'elle soit à la fois efficace, équitable et écologique, notamment en Afrique? Pour en savoir plus, mesdames et messieurs, votre émission Durabilité reçoit un habitué de cette émission, Bocar Haruna Diallo, expert climat, mais également un expert dans le domaine. Merci encore, monsieur Diallo, et bienvenue aussi dans cette émission.
Bonjour, Bocar, c'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur ce domaine-là.
Alors, comment concilier augmentation de la production agricole et préservation des ressources naturelles dans un monde en pleine croissance démographique?
La conciliation de l'agriculture durable et aujourd'hui la conservation des ressources naturelles, c'est l'un des enjeux les plus grands du XXIe siècle. On est tous d'accord que l'agriculture moderne de nos jours est appelée à se rapprocher davantage vers des systèmes plus intégrés en conjuguant la productivité et la durabilité. Et moi, dans ce cas, je vois l'agroécologie comme étant une solution qui apporte sinon comme étant une pratique qui apporte des solutions prometteuses, étant quand même une activité, sinon étant une pratique qui respecte des normes environnementales, en alliant les connaissances traditionnelles aux innovations technologiques de nos jours, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'agriculture sans parler des innovations technologiques, bien entendu, même si on fait usage à nos connaissances traditionnelles. Et aujourd'hui, des systèmes d'irrigation aujourd'hui sont quand même efficaces, et parmi ces types de production, on peut parler aussi de la rotation culturelle, de l'agriculture de précision, qui permettent aujourd'hui d'optimiser l'utilisation de ces ressources qui sont quand même et qui deviennent de plus en plus rares, tout en garantissant des rendements plus élevés. Et en outre, on pense qu'une diversification des cultures et de l'irrigation garantit aussi des rendements plus élevés. Et aujourd'hui, l'agriculture, tout comme l'élevage, pourront renforcer la résilience des systèmes d'exploitation agricole. Et ce que je peux dire aussi, que au lieu de penser à maximiser, sinon loin de penser à maximiser les rendements agricoles à court terme, comme le font la plupart des pays africains en général, il me semblerait plus important de penser d'abord à optimiser la productivité agricole à long terme, tout en préservant la fertilité des sols et l'équilibre des naturels, parce que l'agriculture aujourd'hui, sinon la planète en tant que telle est tellement menacée, les besoins alimentaires deviennent de plus en plus importants, mais aujourd'hui, il faudra arriver à cette possibilité de pouvoir concilier la productivité agricole et la conservation des ressources naturelles pour éviter éviter quand même qu'il y ait l'extension, sinon l'épuisement de ces ressources naturelles-là.
Et dans cette même dynamique, aujourd'hui, quels sont les impacts de l'agriculture intensive sur l'environnement et la santé humaine?
Très bonne question, Aboubakar. On est tous d'accord, les grands scientifiques, les grands experts dans le domaine, les grands experts dans le domaine de la santé sont tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, l'agriculture intensive a des véritables conséquences tant sur le plan environnemental que sur le plan santé, que sur le plan de la santé. Elle est véritablement lourde de conséquences sur l'environnement et des études scientifiques ont révélé que l'agriculture intensive impacte entre 70 à 80% de la déforestation mondiale. Et elle se fait à travers l'altération des sols, à travers la pollution de l'eau par les nitrates qu'on utilise, par les pesticides qu'on utilise, la perte massive de la biodiversité, mais aussi par une forte contribution des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture intensive quand même est pratiquée à l'échelle internationale et parfois on n'arrive même pas à contrôler cette activité-là. Et sur le volet sanitaire, par exemple, je ne suis pas un médecin, mais les études scientifiques ont prouvé que l'exposition aux pesticides qu'on utilise porte atteinte à la santé des agriculteurs, mais aussi des consommateurs. Tandis que L'utilisation, par exemple, intensive d'antibiotiques dans l'élevage aussi pourrait favoriser pourrait apporter d'autres solutions dans le cas de l'antibiorésistance, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, on sait que tout le monde utilise l'engrais, mais l'engrais chimique, mais est-ce que les gens savent comment utiliser l'engrais chimique? Quand utiliser l'engrais chimique, où utiliser l'engrais chimique, et quelle est la dose, quelle est la quantité qu'on doit utiliser? Les gens qui ne connaissent pas, ils peuvent venir verser de l'engrais comme il le faut, et ça, en plus d'avoir des conséquences négatives sur l'environnement, en plus d'avoir des conséquences négatives sur la santé, ça a aussi un impact négatif sur les rendements agricoles, parce que si tu ne sais pas doser, si tu ne sais pas utiliser la bonne quantité, ça c'est sûr que tu vas nuire tes rendements, tu vas nuire ton sol, mais aussi tu vas nuire ta santé en consommant, sinon la santé de tout consommateur de ces produits agricoles-là.
Et fort de tout cela, de cet argumentaire qui nous en apprend bien évidemment par rapport à la gestion également de cette agriculture, les nouvelles technologies sont-elles aujourd'hui compatibles avec une agriculture durable, selon vous?
Oui, donc nous vivons aujourd'hui dans un monde en pleine croissance industrielle. Aujourd'hui, je pense que aucune activité socio-économique ne peut aller sans l'utilisation de la technologie. Et les technologies sont de même à soutenir la transition écologique vers une agriculture plus durable. Et on sait que l'agriculture de pointe aujourd'hui, sinon l'agriculture qui utilise la technologie, peut se baser aussi sur la technologie à travers des capteurs qui sont connectés, par exemple aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui en vogue, pour servir à optimiser l'utilisation des ressources en eau. Parce que nous sommes dans une planète menacée par la rareté de l'eau. Dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de régions sont confrontées à ce problème d'accès à l'eau-là. Et aujourd'hui, l'utilisation de ces technologies pourrait apporter une solution vraiment pérenne. Et on sait que les biotechnologies vertes aujourd'hui sont développées un peu partout. Ces biotechnologies pourraient aider à développer des variétés plus résistantes au stress hydrique, par exemple. Mais ces technologies aujourd'hui ont besoin d'être exploitées en fonction de leur impact sur la durabilité, bien sûr, et sur l'accessibilité aux agriculteurs. Parce que on parle de technologie, on a tendance à penser que sinon la réalité montre que une bonne partie des agriculteurs africains, par exemple, et en particulier ceux de l'Afrique subsaharienne, n'ont pas accès à la technologie. Et quand on parle de l'agriculture technologique, du coup, on fait allusion tout simplement aux agriculteurs occidentaux, sinon d'autres, une petite portion des agriculteurs qui s'activent aujourd'hui dans l'agro-business. Alors que l'idéal serait qu'on fasse le maximum possible à ce que les agriculteurs, même au niveau local, au niveau familial, puissent avoir accès à ces technologies-là et qu'ils peuvent les utiliser en fonction de leurs besoins, mais en fonction aussi de leur réalité. On parle de technologie durable, si je peux me permettre, que lorsque celle-ci appuie à la fois sur l'autonomie des agriculteurs, le respect des écosystèmes et l'intégration dans une approche systémique. Donc, il y a toute une chaîne qu'il faudra respecter pour que ces technologies-là puissent impacter directement sur l'agriculture durable. Et il faut aussi, je pense, à mon avis, que cela devrait être, sinon cela gagnerait à être un peu plus généralisé, pas seulement que ce soit l'apanage d'une certaine élite, sinon d'une certaine proportion des agriculteurs. Et si tel est le cas, à mon avis, on ne peut pas penser que ces technologies pourront avoir des impacts significatifs aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc, l'idéal serait de penser à vulgariser la technologie et qu'elle puisse être vraiment accessible aux petits paysans.
Et être accessible aux petits paysans également suscite aussi d'autres interrogations. Quels modèles agricoles sont-elles réellement durables aujourd'hui et peut-on les généraliser à l'échelle mondiale, en particulier en Afrique?
Oui, aujourd'hui, si on se fie sur les études scientifiques et on se fie sur la réalité du terrain, on voit que plusieurs modèles ont fait preuve de leur durabilité. Tant en Amérique latine, par exemple, en Europe et en Afrique, ça c'est le domaine de l'agroécologie. L'agriculture biologique générative est aujourd'hui en train de montrer des effets positifs un peu partout en Europe, aux États-Unis et un peu au Canada. On voit que aussi les systèmes agro-pastoraux, par exemple en Afrique, au Sénégal, de façon plus précise, est aujourd'hui en train de montrer quand même toute sa crédibilité sur le plan de la durabilité. Et les systèmes mixtes qu'on peut appeler l'association, sinon la combinaison agriculture-élevage. En récapitulant, l'agriculture biologique, l'agroforesterie et la permaculture, sinon l'agriculture de conservation, sont aujourd'hui, ont fait leurs preuves aussi bien en Afrique. Et l'adaptation passerait par une adaptation au contexte local avec un soutien technique et financier aux agriculteurs et peut-être le développement des filières appropriées. Parce que la transition, à mon avis, doit tenir compte des spécificités socio-économiques et culturelles de chaque région. Est-ce que, par exemple, cette transition qui est valable en Europe l'est en Afrique, l'est précisément au Sénégal? Est-ce que cette transition aussi est valable, par exemple, au Maroc? Parce que chaque pays, comme je dis, a ses propres réalités socio-économiques et culturelles. Du coup, l'idéal serait quand même de s'adapter en fonction des réalités socio-économiques et culturelles de chaque région. Parce que je ne dis pas qu'il y a un modèle meilleur, tous les modèles sont bons, il suffit juste d'avoir cette ingéniosité-là, de pouvoir incorporer ça, de pouvoir développer et que ce qu'il y ait une certaine appropriation collective, que ça puisse vraiment avoir un effet positif au niveau local, au niveau
Et
international.
justement, très rapidement aussi, quel rôle peuvent jouer les consommateurs et les politiques publiques et les entreprises dans la transition vers une agriculture respectueuse des normes environnementales? Rapidement.
Effectivement, l'agriculture respectueuse des normes environnementales est toute une chaîne. Elle est partagée entre plusieurs acteurs. Comme vous l'avez dit, il y a les consommateurs, il y a les agriculteurs, il y a les entreprises. Donc, chacun a une part de responsabilité. Et que cette transition agricole, par exemple, est une question de dimension collective, de mobilisation collective, est une question aussi d'appropriation collective. Ce n'est pas seulement une partie, mais c'est toute une chaîne, en fait. Et que les consommateurs, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'influencer, par exemple, les pratiques par leur choix, par exemple, d'achat et par la réduction du gaspillage alimentaire. Parce que dans beaucoup de pays, par exemple, si on prend l'exemple africain de façon générale, c'est vrai que certains ne parviennent pas à manger à leur faim, mais dans certains endroits, le gaspillage alimentaire, il est quand même visible. Il est quand même visible. On n'est pas arrivé à un moment où on parvient à éviter le gaspillage alimentaire à travers le compost ou à travers d'autres techniques. Mais l'idéal serait quand même de penser à influencer les pratiques, mais aussi à changer la donne en évitant au maximum possible le gaspillage alimentaire. Ça, c'est pour le rôle c'est le rôle du consommateur. Donc, il faut qu'il y ait une certaine réadaptation en fonction de la réalité.
Tout à fait.
Et par rapport aux politiques, le rôle, à mon avis, serait d'assurer la mise en place d'un cadre réglementaire qui est favorable et qui peut soutenir financièrement la transition. Parce que la transition, c'est tout à fait un processus. Elle est tellement difficile, elle est tellement longue et elle demande quand même un apport. Il y a certains qui n'ont pas les conditions financières qu'il faut par exemple maintenant pour aboutir à cette transition, sinon pour amorcer cette transition-là. Et qu'en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur politique, comme j'ai dit, le
Tout à
rôle, c'est
fait.
d'assurer la mise en place d'un règle plus ou moins réglementaire parce que c'est une chaîne, pareil. C'est une chaîne. Ça part de la production jusqu'à la consommation. Donc, c'est cette chaîne-là, il faut qu'il y ait une certaine réglementation
Tout
et
à
il
fait.
faut aussi qu'il y ait un soutien financier régulier, en fait. Je dirais par rapport aux entreprises, ils ont cette responsabilité de pouvoir changer, de pouvoir innover dans les pratiques durables et d'assurer aussi une certaine traçabilité des produits en investissant dans les technologies vertes. Parce que les entreprises sont soit dans le domaine du stockage, soit dans le domaine du transport, soit dans le domaine de la transformation. Mais dans tout ça, la technologie peut aujourd'hui jouer un rôle très important à travers le stockage, à travers le transport durable, par exemple, à travers le transport durable, mais aussi à travers une traçabilité des produits, à travers une localisation, un suivi régulier, un suivi à temps de tout ce qui est produit, de tout ce qui est transport de produits.
Et tout cela,
Donc,
bien
à mon
évidemment.
avis, ça, les entreprises ont une part de responsabilité à jouer dans ce cas. Oui, et moi, je pense que pour arriver à une petite conclusion, sinon une petite synthèse entre le rôle de tous ces acteurs-là, c'est que la coordination entre les acteurs est une condition pour moi sine qua non pour aboutir à une transformation efficace du système agricole. Comme j'ai dit, c'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de tout le monde.
C'est l'affaire
Et
de tous,
puis,
bien
la
évidemment,
durabilité.
pour une durabilité exigeante, mais aussi pour un climat qui s'accommode bien évidemment des réalités aussi de l'agriculture durable. Nous sommes un peu acculés par le temps, mais quand même, merci pour ces éclairages, Monsieur Bocar Diallo. Toujours un plaisir de vous accueillir, de par votre expertise, de par également cet argumentaire qui nous permet aujourd'hui de pouvoir espérer et d'avoir une orientation claire, limpide sur le développement durable, notamment sur l'agriculture et le climat.
C'est moi qui te remercie en terminant par cette phrase qui dit que la durabilité, à mon avis, c'est une éco-responsabilité multisectorielle, en fait. Aucun acteur ne parviendra à lui seul. Donc c'est toute une chaîne, c'est tout le monde qui doit, chacun a sa part de responsabilité. Et merci beaucoup pour la sollicitation encore.
Merci encore à vous, cher Aruna Diallo. Bien des choses à vous et merci également à vous, chers amis, pour la durabilité de votre confiance renouvelée. Rendez-vous au prix pour un prochain numéro.